Demain, l'espace public, ce sont des rencontres mensuelles proposées à Montpellier par la Maison de l'architecture Occitanie-Méditerranée, la ZAT, zone artistique temporaire, et Transat, programme d'urbanisme culturel. Architectes, urbanistes, philosophes, anthropologues viennent parler de ce qui se fait déjà et de ce qu'on peut imaginer pour rendre nos villes plus vivables, mais aussi plus vivantes et vibrantes. La quatrième rencontre, Demain la ville et l'école terrain d'aventure, a eu lieu le mardi 6 décembre 2022 avec Thierry Paco, philosophe de l'urbain, auteur notamment de Pays de l'enfance, et Nourdine Barra, écrivain, venu présenter ses actions mises en œuvre dans les espaces publics du quartier de la Mousson. Voici l'enregistrement intégral de cette soirée.
Je vais peut-être juste dire un petit mot d'introduction pour présenter Thierry, que tout le monde connaît, mais néanmoins on peut rappeler qu'il est philosophe, professeur des universités, qu'il a enseigné notamment à l'Institut d'urbanisme de Paris, entre autres, qu'il est l'auteur de très nombreux livres, je crois qu'il y en a une centaine, notamment sur la ville et le cinéma, sur l'espace public, sur l'utopie, sur Ivan Illich, sur de très nombreux sujets, et notamment sur le sujet que nous allons aborder ce soir. Donc on est particulièrement heureux. Et on te donne la parole tout de suite pour commencer cette soirée pendant 40 minutes.
Oui, enfin, j'ai pas l'heure, moi, donc ça peut être un peu plus, on verra bien. Donc, bonsoir à toutes et à tous, merci à vous deux pour m'avoir si gentiment présenté. Je suis parti très tôt de la Normandie où je réside et j'ai oublié mon cahier où j'avais rédigé ma conférence pour ce soir. Mais je ne suis pas inquiet du tout parce que j'ai plutôt une bonne mémoire. Alors, ce que je voulais vous raconter, c'était la chose suivante. C'était d'abord commencer par le commencement, c'est-à-dire pourquoi on s'intéresse aux enfants, ou plus exactement, pourquoi on ne s'y intéressait pas. Et là, nous sommes en 1996. C'est la deuxième rencontre des Nations Unies sur la ville, qu'on appelle Habitat. C'est l'officine des Nations Unies basée à Nairobi. Et la première avait eu lieu à Vancouver en 1976. Elle était axée sur le logement du plus grand nombre, c'est-à-dire l'autoconstruction, sur les bidonvilles, etc. Et les personnages marquants étaient un John Turner, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, et puis un Ivan Illich. Voilà, c'était les conférenciers les plus appréciés à cette réunion. La deuxième a lieu à Istanbul, et la thématique était sur les élus et les ONG. C'est-à-dire, en fait, deux invités qui n'avaient pas été conviés au premier Habitat. Et donc là, les élus se sont manifestés, et le monde entier découvrait que la majorité des maires des villes du monde n'étaient pas élus, précisément. Ils étaient nommés par le président de la République dans différents pays, ou le roi, au Maroc, etc. Bon, donc ça a déclenché aussi, dans des tas en cascade, des élections de maires dans des villes. Et ils n'étaient pas élus parce que souvent, le maire de la plus grande ville représentait un tiers, voire 40 à 50% de la population du pays. Vous voyez, le maire de Dakar, c'est pas rien, c'est un tiers des Sénégalais. Bon, donc du coup, on comprend très bien que politiquement, le président de la République préférait nommer un fonctionnaire, vous voyez, comme à Paris, jusqu'en 1977, hein, où le premier maire a été Chirac. Donc, moi, je prépare un livre collectif que j'appelle « La planète des villes », qui, donc, c'était pas... Il y avait une certaine prise de position qui rompait avec la présentation traditionnelle des villes dans le monde, où on distinguait les villes du tiers-monde, les villes socialistes et les villes capitalistes. En gros, vous voyez, c'était trois mondes. Mais tout ça s'effondre avec le mur de Berlin en 1989 et l'effondrement de la Russie, de l'URSS qui devient la Russie en 1991. Et donc, du coup, tous ces termes ne veulent plus rien dire. Et moi, je fais un livre pour montrer que la Terre entière est urbanisée, que du coup, on ne peut pas y échapper à ce processus-là qui est planétaire. Et j'essaie de comprendre, si la Terre entière est urbanisée, qu'est-ce qui caractérise chacune des villes? Certaines sont des mégalopoles et possèdent généralement des bidonvilles excessivement importants. Alors, je fais un livre assez complet. Enfin, j'en étais plutôt content. C'est important d'être content quand on fait quelque chose, hein, je vous le signale. Ça permet d'avoir confiance en soi. Mais je regarde ce bouquin, puis au moment de partir à l'impression, je me dis, mais c'est incroyable. Il n'y a rien sur la religion, il n'y a rien sur le corps et la sexualité, et il n'y a rien sur les enfants. Alors là, évidemment, je n'avais plus le temps de trouver une autrice ou un auteur, donc j'ai fait les trois papiers qui manquaient. Et sur les enfants, je m'aperçois que la documentation que je pouvais lire venait surtout de l'UNICEF et évoquait principalement les enfants des rues. Donc il n'y avait rien sur les enfants des grandes villes, des pays riches ou des pays capitalistes, si vous voulez, comme si ça ne posait pas de problème, comme si tout marchait bien. Et par contre, il y avait des études excessivement bien instruites, avec souvent du reste des actions d'ONG, pour essayer de sortir ces enfants des rues qui étaient livrés eux-mêmes et livrés à des mafias locales, à des proxénètes, à des dealers. Et donc, il fallait les sortir du trottoir de Bogota, vous voyez, ou de Bangkok. Et bon, du coup, j'ai continué à tenir un dossier dans mon bureau sur les enfants, et je lisais systématiquement tout ce qui sortait là-dessus. Et j'ai lu le livre qui était paru en 1996 en italien de Francesco Tonucci, et puis j'ai lu le livre de Colin Ward, L'enfant et la ville, qui était paru en 1978 en anglais. Colin Ward, je l'appréciais depuis longtemps parce que c'est un anarchiste qui avait créé c'est un éducateur qui avait créé un bulletin, en anglais bee, l'abeille, B-E-E, bulletin d'éducation à l'environnement. Vous voyez, c'est pareil en français. Hein. Et donc, c'est quelque chose de très intéressant. En 1972, 73, vous voyez, il commençait à dire il y a une discipline qui manque pour tous les enfants, c'est la question environnementale. Ça, c'est absolument unique. Bon, alors, il a réussi à tenir le coup quelques années, mais à un moment donné, les forces conservatrices à l'intérieur de l'institution scolaire l'ont éliminé. Bon. Mais il est resté quand même anarchiste, et c'est très bien. Et donc, ce Colin Ward a fait ce livre, et moi, j'étais déjà à l'époque directeur littéraire de plusieurs maisons d'édition, j'avais été à la découverte, enfin bon, peu importe, je ne vais pas vous raconter ma vie maintenant, mais du coup, je viens avec ces exemplaires, l'un en anglais, l'autre en italien, essayer de trouver des éditeurs pour les publier. Ça n'intéresse personne. Je le dis parce que c'est très important de le savoir. Tout le monde s'en fout. Les enfants dans la ville, ce n'est pas un sujet. Bon, peut-être parce qu'ils ne votent pas. Alors du coup, je dis, oui, mais moi, je suis pour que les enfants puissent voter à l'âge de 12 ans. Oui, oui, d'accord, mais enfin, ce n'est pas encore le cas. Donc pour l'instant, on ne va pas s'en occuper. Et puis, j'ai réussi à convaincre les éditions Parenthèses à faire ce livre. Du coup, je l'ai préfacé pour raconter un peu l'apport de Tonucci par rapport à d'autres théoriciens italiens. Parce que ce n'était pas le seul. J'avais perçu ça, que beaucoup d'auteurs pensent qu'ils sont toujours les premiers à... Mais c'est normal, c'est un réflexe, j'allais dire, spontané. Moi, pour ceux qui connaissent mes livres, j'ai toujours des bibliographies excessivement détaillées, parce que je suis convaincu qu'on pense à plusieurs, et qu'il faut être dans la gratitude. Il faut remercier ceux qui nous ont permis de comprendre quelque chose et de penser comme on le pense. Donc je remercie Platon, qui est un vieux copain, mais d'autres aussi, bien sûr, des contemporains, évidemment. Alors... je préface aussi Colin Ward et puis Tonucci. Et ces deux livres ne marchent pas très bien. C'est aussi important à savoir, c'est que nous, ici réunis, comme c'est un thème qui nous passionne, peut-être vous l'avez cité, il est venu ici à Montpellier, bon, mais ça n'a pas fait la une de la presse, ça n'a pas vraiment été bien vendu. Vous voyez, c'est des bouquins, je ne sais pas, moi, pour vous donner un ordre de grandeur, 1500 peut-être pour Tonucci et peut-être 800 pour Colin Ward, vous voyez, en plusieurs années. Alors que c'est un livre absolument extraordinaire, d'une très grande intelligence, très facile à lire, pas du tout jargonneux. Et puis, je continue toujours à travailler là-dessus. Je suis par hasard, mais enfin, je deviens le président d'un truc que j'ai jamais osé prononcer parce que c'est très laid, vous allez voir, du Learning Center sur la ville durable. Que des mots toxiques que je ne supporte pas, mais bon, j'étais le président, donc j'ai accepté. Je fais l'exposition, c'est à Dunkerque, je fais l'exposition permanente sur l'écologie des villes, je n'appelle pas durable, parce qu'il y a des villes qui ont assez duré. Comme Dubaï, par exemple. Donc, je suis plutôt pour une écologie des villes. Et puis, il fallait faire une exposition temporaire. Et je propose les enfants dans la ville. Et tout de suite, unanimement, les gens disent « super, il faut le faire ». Donc je fais cette expo qui s'appelle « La ville récréative ». École buissonnière, enfants joueurs. École buissonnière, il y a un malentendu, car le 7 février 1554, le Parlement de Paris interdit les écoles buissonnières. Les écoles buissonnières sont les écoles qui sont dissimulées derrière des buissons, là où officiaient des albigeois ou des réformés. Donc, vous voyez, l'école buissonnière, ce n'est pas du tout ce qu'on croit, nous, à la suite de Prévert, c'est-à-dire prendre le chemin de l'école buissonnière, c'est-à-dire aller voir ailleurs si on s'y trouve, ce qui est excellent, évidemment. Mais ce n'est pas le sens premier du mot buissonnier et buissonnière. Et évidemment, la deuxième partie du titre, le plus important pour moi, c'était l'enfant joueur. Alors, mon exposé, je l'avais conçu dans mon cahier en trois parties, les voilà. La première, c'est qu'est-ce qu'un enfant ? La deuxième, c'est qu'est-ce que l'école ? Et la troisième, c'est qu'est-ce que le jeu ? On y va, si vous voulez. Donc, commençons par qu'est-ce qu'un enfant ? Alors là, c'était l'étymologie, tout ça, vous connaissez, bon, c'est très facile. Mais moi, je voulais essayer de renouveler un peu la réflexion sur cette thématique et j'ai suggéré que les enfants étaient des faiseurs de monde et des chercheurs d'or, H-O-R-S. Alors, après, j'ai dû théoriser ça, évidemment, je vais le faire rapidement parce que sinon, on n'est pas couché. Des faiseurs de monde parce que l'être humain, à la différence des autres êtres vivants, ne naît pas comme un petit chiot. Il vient au monde. Il vient au monde apporter au monde déjà là son propre monde. Donc c'est un faiseur de monde. Et souvent, on ne le sait pas, les parents ne le savent pas, les grands-parents non plus. On essaye de croire que c'est un petit adulte en miniature qui va grandir et va s'inspirer des grands. On n'a pas encore compris que déjà là, il a en lui un monde, son monde, à cause de sa sensorialité, qui est diverse, évidemment, d'un enfant à l'autre, parce que sa vie intra-utérine n'est pas la même, sa mère n'est pas la même, etc., etc. Même pour des jumeaux, du reste. Et là, évidemment, il faut se documenter, et on apprend que l'enfant, dans le ventre de sa mère, va d'abord prendre conscience du toucher, puis de l'ouïe, puis du goût, puis goût, j'en oublie un, la vue en dernier, c'est ça que je voulais dire, bon, hein, l'odorat, merci. Voilà, et donc c'est dans cet ordre-là. Or, c'est pratiquement l'ordre inverse de ce qu'on pense presque spontanément. On pense qu'on est dans une société de l'image et que c'est l'image qui prime et que c'est donc le regard et que c'est la vue. Bon, ben c'est en fait le dernier sens que, même à la limite, c'est plutôt quand il est sorti du ventre de sa mère que ça commence à se développer. Alors, ça c'était un premier point, donc il vient au monde. Ça c'est pour moi très important. Du reste, enquêtant dans des écoles, je m'étais aperçu que beaucoup d'enseignants, me présentant les élèves, donnaient leur prénom, puis tout d'un coup, ils arrivaient sur un enfant, garçon ou fille, qui n'était pas vraiment dans la classe, vous voyez, qui était un peu ailleurs. Et généralement, la formule que l'enseignant avait, c'était « Ah, voilà, là, c'est Justine ou Justin, et dans son monde. » Alors, vous voyez, on le repère, il n'est pas présent dans la classe, vous voyez, il est un peu rêveur, si vous voulez. Et là, je dis « Ah, ça doit être un bon élève. » Parce que oui, c'est vrai. Celui qui est dans son monde, c'est celui qui est le meilleur élève, finalement, parce qu'il est en train de construire son propre univers. Et donc là, c'est quelque chose d'essentiel, parce qu'il sait, sans le savoir, que l'enfance n'est pas une période de la vie, mais un pays. Ça, c'est une notion essentielle que Bachelard nous a enseignée. C'est clair que, tout d'un coup, on n'est pas dans le découpage temporel, on est dans quelque chose qui entremêle, bien sûr, du temps, mais aussi du territoire. Et donc, tout être humain est un être situationnel, c'est-à-dire qu'il est situé quelque part, socialement, géographiquement, intellectuellement, religieusement, etc. Il est relationnel, c'est-à-dire qu'il communique, il a besoin de communiquer, il a besoin d'échanger, il passe sa vie, alors là, je fais référence à un philosophe que j'aime beaucoup, qui est Georges Simmel, qui explique très bien que l'être humain Et l'être frontière qui n'a pas de frontière, c'est une phrase très difficile, je la commenterai une autre fois. Mais l'essentiel n'est pas là, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'autre étranger à soi-même pour pouvoir exister. C'est-à-dire que l'étrangeté de l'autre est la garantie de ma propre différence. Et donc l'être humain, il ne cesse de se lier pour se délier, pour se relier. Nous sommes des êtres de liaison. Et c'est pour ça que la parole est aussi importante. Alors, et la parole est la langue, évidemment. Et la langue, c'est ce muscle qu'on a dans la bouche et avec lequel on peut prononcer des mots. Mais le mot « mot », en latin, c'est « mu », qui va donner « muet » en français. C'est une onomatopée. Et comme le mot, qui est une onomatopée, est fait par la langue, l'ensemble des mots constitue une langue. Vous voyez, c'est très simple, en fait, à dire vrai, hein, l'histoire des termes. Oui, parce qu'ils m'ont présenté très gentiment, mais ils ont omis de mentionner que j'étais lexicographe, pour le petit Larousse illustré. Et donc, chercher le sens des mots, évidemment, c'est quelque chose de passionnant. Alors, l'enfant, c'est celui qui ne parle pas, comme vous savez, en latin, mais ce n'est pas ça qui m'intéressait. Donc, c'est un faiseur de monde. Mais il fait des mondes, mais il ne va pas les expliciter, il ne va pas les théoriser, il ne va même pas les décrire. Il peut peut-être, à un moment donné, les dessiner, quand il sera dessiné. Et puis, c'est un chercheur d'or, parce que là, je reprenais toutes les études de Piaget, revues et corrigées par ses héritiers, comme l'Écuyer, ou contestées un petit peu à la marge par Vallon. Vous voyez, tous les grands psychologues des enfants qui ont essayé de comprendre le processus cognitif, c'est-à-dire comment l'intelligence vient aux enfants, comment l'enfant prend conscience des distances, des répétitions, des volumes, etc. etc. Et donc, tout ce rapport à l'espace et au temps, maintenant, sont très, très bien documentés. Piaget s'est un peu trompé, mais je le dis avec beaucoup de respect pour cet homme, parce qu'il n'avait pas l'IRM, il n'avait pas le scanner, il n'avait pas l'étude de l'imagerie du cerveau comme on l'a aujourd'hui. Mais il avait en gros assez raison dans la succession de ces quatre grands stades. Hein, je ne rentre pas dans le détail. Sauf qu'il imaginait que c'était un escalier. Donc on passait d'un stade à un autre. Et en fait, on sait maintenant que pour certains enfants, les stades s'entremêlent. Et donc on n'est plus dans cette logique-là évolutionniste, si vous voulez, progressive, itérative. On est dans quelque chose qui peut être entremêlé. Alors, en réfléchissant à ça, je me suis aperçu que l'enfant, il commençait par sortir de soi. Ça, c'est un premier élément considérable dans l'observation des bébés. C'est que le bébé est panique lorsqu'il perd quelque chose de son corps. Lorsqu'il fait pipi, lorsqu'il fait caca, ça lui échappe. Et chez moi, il pleure, il t'inquiète, ça. Vous voyez, donc il est déjà hors de lui. Enfin, pas dans le sens général de cette expression. Et donc après, il prend conscience de son corps, il commence à se lever, etc. Bon, là, on n'est pas couché, donc j'accélère. Et il devient hors de sa chambre, hors de son berceau, hors de sa famille. Et puis ensuite, hors de l'école. Et puis ensuite, hors de la rue. Et puis ensuite, hors du monde. Donc, vous voyez, l'enfant a toujours comme intention d'aller voir ailleurs s'il s'y trouve. Et c'est la meilleure philosophie du connaître. Aller voir ailleurs si on s'y trouve. Il faut toujours aller voir ailleurs si on s'y trouve. Et au sens métaphorique comme au sens, évidemment, réel. Donc, j'avais cette idée que les enfants étaient chercheurs d'or et faiseurs de monde. Et puis, après, il fallait que je parle de l'école. Alors, l'école, en grec, c'est « scolé ». Ça va donner « schule », ça va donner « school », ça va donner « école ». La « scolé » chez les Grecs, c'est un temps pour rien d'autre que la connaissance de soi et d'autrui. Ce temps pour rien est traduit en latin par « osium », ce qui signifie « loisir ». En français, le mot « loisir » ne vient pas d'osium, il vient de « licéré », qui va donner « licite ». Vous voyez, c'est une autre histoire. Mais là, je fais bref, puisqu'on m'a donné que 40 minutes. Non, je plaisante. Donc, cette connaissance... Ah oui, il faut préciser que si des Grecs pouvaient consacrer du temps à la scolée, citons Athènes au 5e siècle, le siècle de Platon, c'est parce que 50% de la population athénienne était composée d'esclaves. Donc ce loisir n'est possible que parce qu'il y a un travail contraint, évidemment, qui touche toute une partie de la population. Et durant ce loisir, eh bien, on part à la découverte de l'autre, Et Platon le fait par le biais de promenades dans l'académie, dans la campagne, avec ses élèves, et par la discussion, par le dialogue platonicien, là je fais un mauvais jeu de mots évidemment, les idées s'entrechoquent, les idées avancent, et la réflexion se met en branle. Donc on voit bien que pour qu'il y ait de la pensée, pour Platon, il faut qu'il y ait la confrontation. Il faut qu'il y ait de l'échange, il faut que chacun puisse formuler au mieux ce qu'il pense, ou ce qu'il ressent, évidemment. Ça, à l'école, ce n'est pas le cas. Je parle de l'école maternelle, de l'école primaire, etc. Ce n'est pas le cas. Et donc, j'avais été très, très malheureux, j'ai été très, très malheureux enfant. Non, mais ne vous inquiétez pas, mais mon père était directeur d'école. Vous voyez, il n'y a rien de pire. Bon. Et donc, j'étais très malheureux parce que j'étais très mauvais élève, parce que ça ne m'intéressait pas du tout. Et ça ne m'intéressait pas du tout, j'ai beaucoup réfléchi à ça, parce qu'après, ça m'a intéressé beaucoup. Qu'est-ce qui m'intéressait beaucoup? C'était de connaître, c'est-à-dire d'éprouver. Et à l'école, je n'éprouvais rien. J'étais passif, assis, et j'étais un réceptacle. Et le maître ou la maîtresse, on les appelait comme ça à l'époque, on devait apprendre par cœur leurs trucs. Et si on n'était pas sensible à leur thématique, à leur façon de raconter ce qu'ils nous enseignaient, on était pénalisé, évidemment. Et je raconte dans le livre que mon père remettait les livrets. Et il me vouvoyait, il m'appelait Monsieur Thierry Paco, moi je l'appelais Monsieur le directeur. Et donc, il dit 24e sur 27. Oui, je n'étais pas tout à fait le dernier, attention. Thierry Paco. Et il disait devant tout le monde, je ne sais pas du tout ce que vous allez pouvoir faire plus tard. Et un copain me dit, ah, il est dégueulasse. J'ai vu où était sa bagnole, on va lui crever les pneus. J'ai fait, non. Non, ça suffit déjà. Il n'avait pas fait le rapprochement que c'était mon père. Il ne pouvait pas imaginer que le directeur de l'école était mon père. Bon, moi qui étais un mauvais élève. Et en fait, je n'ai commencé à éprouver quelque chose qu'avec l'université. Donc j'ai été vraiment soutenu par ma mère pour qu'elle voulait absolument que j'aie le bac, parce que sans le bac, on n'avait rien. À ses yeux, à elle. Ce qui est idiot, mais elle pensait ça. Et donc, avec l'université, là, j'ai pu choisir, c'est plus comme ça tout à fait maintenant, mes cursus, j'ai pu faire plusieurs études en même temps et lire abondamment. Et je suis un très, très grand lecteur depuis très petit. Et donc, c'est ça qui m'a mis sur le chemin du connaître. Parce que la connaissance est un cheminement, évidemment. Et donc, si on est exclu de ce cheminement, on ne peut rien apprendre. Donc, c'est pour ça que Montessori n'a pas d'enseignant dans sa méthode. Elle a des accompagnateurs, des accompagnatrices. Il y en a même une avec laquelle elle n'était pas très contente, elle l'a virée, parce qu'elle arrive, elle la surprend en train de dire à un petit garçon qui avait fait un arbre et qui avait peint le tronc en rouge. Et elle lui dit, mais t'as pas bien regardé les troncs des arbres, il n'est pas rouge. Alors l'enfant, il dit, je l'ai vu rouge, bon, puis hop, il se sépare. Maria Montessori a entendu ça. Elle vient, elle dit à l'accompagnatrice, elle dit, mais le tronc est rouge. Alors l'accompagnatrice dit, non madame, le tronc n'est pas rouge. Ah, il va falloir que je revoie toute ma méthode sur la chromatique. Et elle a viré, elle a dit, c'est pas une bonne enseignante. Parce que voilà, elle était encore, vous voyez, dans des postures comme ça, d'une certaine rationalité. Et faut savoir que Montessori ou de Crowley, beaucoup de ces pédagogues novateurs de ces pédagogies qui sont sans terme maintenant sont des médecins. Et ils avaient la lourde tâche, ils étaient psychiatres, de s'occuper des enfants qui étaient considérés comme, alors je prends beaucoup de guillemets, comme anormaux. Et eux, ils étaient intimement persuadés que ce n'était pas le cas. Et ils se nourrissaient de la littérature française sur le petit enfant sauvage de l'Aveyron, dont Truffaut a fait un film. Et là, ils se sont aperçus que, en fait, cet enfant savait plein de choses, mais pas le plein de choses que l'adulte considérait comme étant indispensable pour un enfant. Donc, vous voyez, on est dans quelque chose de tout à fait différent. Et donc, après, je ne dis oui, par exemple, va le confirmer, va l'écrire, il expliquera qu'un enfant n'apprend que ce qu'il l'éprouve. D'où toute sa théorie de l'expérience. Si je n'expérimente pas quelque chose, je ne peux pas l'apprendre. Tant que je n'ai pas bu la tasse dans la mer, je ne sais pas que l'eau est salée, même si un prof d'université ou un grand savant va me le dire, ça ne me servira à rien. Alors là, j'avais trouvé un adage qui me plaît beaucoup, que j'avoue passe, contre l'expérience, parce que je ne supportais plus les gens de ma famille, les vieux, qui disaient tout de suite « croisant mon expérience ». Ouais, pour moi, c'était une connerie totale, mais je n'avais pas les arguments. Maintenant, je sais, cet adage chinois est le suivant, « l'expérience est un peigne pour un chauve ». Et j'en suis persuadé. Donc, vous voyez, je ne dis pas ça pour moi, mais je dis ça généralement. Alors, ensuite, ayant réfléchi à cette école, j'ai regardé, évidemment, les pédagogues, Guédès, bien sûr, mais aussi Froebel. Enfin, bon, il y en a vraiment, je ne vais pas tous les énoncer. Célestin Freinet, très, très important, etc. Et, en fait, ce sont des gens qui mettent toujours en avant l'étonnement de l'enfant. Sans étonnement, et c'est là où on rejoint Platon, parce que c'est la définition de la philosophie chez Platon, sans un étonnement, il n'y a pas de questionnement. Et donc, il n'y a pas de curiosité. Et donc, vous allez peut-être apprendre par cœur des trucs, être un bon élève, mais vous n'apprendrez rien. Alors, c'est pour ça que, vous voyez, que l'enseignant n'enseigne rien. Mais c'est très difficile de ne pas enseigner rien. Enfin, pardon, d'enseigner rien. C'est très, très difficile. Hein. Et moi, je l'ai compris parce que je voulais être prof parce que ça laissait du temps pour lire, pour penser. Et donc, j'ai choisi ce métier. C'est un métier quand même, hein, je le précise. J'étais persuadé, mais dès ma première classe, j'avais 21 ans, que je n'enseignais rien. Plus précisément, que je n'enseignais rien d'autre que le plaisir d'apprendre. Et c'est pas simple. Parce que alors là, j'avais eu tellement d'enseignants qui n'avaient aucun plaisir à enseigner que du coup, c'était décourageant, évidemment. Et le plaisir d'apprendre, c'est partir de ce qu'on ressent. C'est-à-dire que du coup, l'enseignant est comme un étudiant ou comme un élève. Il est dans la même posture. Donc c'est pas lui qui va transmettre quelque chose. Et ce mot de transmission est très dangereux et il me gêne beaucoup parce qu'il y a toujours cet argument-là, il faut transmettre, etc. Non, non, il n'y a rien à transmettre du tout. Il y a simplement à dire à quelqu'un, si tu veux venir sur le chemin du connaître avec moi, eh bien, étonne-toi de tel arbre, de tel oiseau, de telle théorie quantique, de telle analyse artistique, etc., de telle lecture. Prenez un poème, par exemple. Un poème, ça ne se commente pas, ça ne se décortique pas. Vous voyez, moi, je ne comprenais pas du tout comment le prof pouvait me dire « Baudelaire, ici, nous dit ceci, cela. » Et je me disais « Mais qu'est-ce qu'il en sait, ce type ? Il n'a jamais rencontré Baudelaire. Et Baudelaire, peut-être lui-même, ne savait pas. » Donc, tout d'un coup, la poésie était expliquée. Vous voyez ? C'est pour ça qu'on est dégoûté de la poésie. Parce que on va essayer de comprendre le sens profond de ceci ou de cela. Et quand on se laisse porter par le texte, alors là, évidemment, on a une révélation. Mais on peut très bien ne pas l'avoir. Il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué de Paul Klee, le peintre, est la suivante. Il dit « L'œuvre est voix. » V-O-I-E. Et quand j'ai compris cette phrase, j'ai compris pourquoi j'étais rétif à telle peinture, à telle symphonie, à telle chanson, à telle photographie, à tel film. Non pas parce que j'étais insensible et que je ne pouvais rien comprendre, mais parce que le musicien, le poète, le peintre n'avaient pas permis à l'œuvre de venir à moi. Donc déjà, vous allez vous déculpabiliser vos élèves et vos étudiants, en disant « c'est pas grave, t'as pas compris ce truc de Bussy, c'est pas grave du tout. Plus tard, peut-être, peut-être, peut-être jamais, mais peut-être qu'une fois, l'œuvre ira à toi. » Et ça, c'est très important, parce que c'est tout un processus, vous voyez, pédagogique tout à fait différent. Sans compter que le mot pédagogue en grec, ça veut dire l'esclave qui accompagne l'enfant à l'école. Donc vous voyez, c'est pas non plus quelqu'un qui a une méthode. Et méthode, méthodos, odos, c'est le chemin, vous voyez. Donc on voit comment tout ça se retrouve. Donc l'école n'est pas une école au sens de la scolé grecque, sauf peut-être le mercredi ou pendant les vacances. Et donc, il faut que chacun invente son école. Je lis un article dans la presse qui me révèle que 85% des Anglais, des enfants anglais, adorent l'école. Alors ça, c'était le gros titre. Et quand on lit l'article, il y a une virgule, parce qu'ils retrouvent leurs copains à la récréation. Et ça, c'est ça l'intérêt de l'école, c'est la récré. Pas la cour de récré, on en parlera tout à l'heure, bien sûr, ce qui est une catastrophe. Alors, donc, vous voyez, l'enfant, j'en ai dit quelques mots, l'école, maintenant j'en veux en arriver au terrain d'aventure, puis ensuite j'essaierai de les mixer les trois, évidemment, c'est ça qui est essentiel. Le terrain d'aventure, c'est un Allemand qui s'appelle, il n'a pas de bol, il s'appelle Faust, mais enfin, qui au tout début du 19e siècle invente un emplacement spécial, je traduis littéralement de l'allemand, un emplacement spécial pour le jeu des enfants. Bon. Et cette idée-là va être exportée aux États-Unis par des migrants allemands, tout simplement, et ça va être traduit en anglais par playground. Bon. Et à ce moment-là, nous sommes donc au 19e siècle, les villes américaines se créent, les États-Unis s'urbanisent, c'est la conquête de l'Ouest, c'est-à-dire que c'est l'extension du chemin de fer de l'Atlantique au Pacifique, et à chaque fois, c'est balisé, jalonné par des nouvelles villes. Et là, il y a beaucoup de réflexions sur qu'est-ce que c'est que les villes, et on trouve parfois une revendication qui est la suivante: on ne peut pas construire une ville si on n'y délimite pas un terrain d'aventure pour les enfants. Donc ça, c'est très très précieux, parce que, et vous allez voir que c'est pas si simple, parce que pour certains bien pensant nord-américain, le terrain d'aventure sera intégrateur et moralisateur. Un enfant qui est laissé à lui-même dans la rue de la ville qui est en train de se bâtir deviendra vite un petit délinquant, surtout s'il est fils d'émigrés. Ce qui est le cas de la plupart des enfants américains à cette période. Ils sont fils d'Irlandais, de Polonais, d'Italiens, etc. Un peu de Basque peut-être, de temps en temps. Bon. Et donc, si on les américanise pas, ça ne va pas. Donc les premiers playgrounds aux États-Unis sont des processus d'américanisation des enfants. Tout ça est écrit, je donne les textes dans mon livre. Mais de l'autre côté, il y a une autre conception des terrains d'aventure, évidemment, qui va se mettre en place, et c'est ce que défend Colin Ward, bien sûr, dans son livre, mais qui date de bien plus tard, c'est que le terrain d'aventure est en fait un petit royaume indépendant de liberté absolue des enfants. Vous voyez, donc d'un côté, vous avez cette espèce d'idée que le terrain d'aventure est une sorte de petit royaume qu'entre enfants, où ils font ce qu'ils veulent. Surtout, ils construisent des cabanes, bien souvent, et puis ils manipulent les éléments. Ça, c'est un point très important. Les éléments, c'est la terre, l'air, l'eau et le feu, qui sont théorisés par la Grèce antique, par Empédocle, mais qui, à dire vrai, sont analysés par Aristote, bon, plus subtilement. Et ces quatre éléments sont contradictoires en eux-mêmes. L'eau vous désaltère si vous avez soif, mais peut aussi inonder votre maison. Le feu vous réchauffe si vous avez froid, mais peut aussi incendier votre récolte, etc. etc. L'air, si vous en avez trop, vous êtes asphyxié. Si vous n'en avez pas assez, vous respirez mal. Donc du coup, vous voyez, quant à la terre, elle vous nourrit, mais c'est là où vous allez finir enseveli. Et donc, l'enfant, sans le savoir, en jouant avec ces quatre éléments, ce qui est le principe du terrain d'aventure, le terrain d'aventure n'a pas d'agrès. Il n'a pas un tourniquet, une balançoire, des trucs comme ça. Non, non. Il y a des bûches, il y a un petit rue qui circule là, il y a des broussailles, il y a des arbres. Et puis, il y a surtout les enfants qui sont là, dont certains ont des canifs, des boîtes d'allumettes. Et puis, voilà, ils jouent. Alors, ce que tu disais est tout à fait juste. Il faut laisser les enfants mettre le feu. Mais pas le feu à la ville, ils ne sont pas idiots. Il y a des tas de statistiques, je n'aime pas trop les statistiques, mais enfin, il y en a plein pour les terrains d'aventure en Allemagne qui existent toujours et qui sont centenaires. Les rares accidents d'incendie se compte sur les doigts d'une main pour l'ensemble du pays. Bon, alors quand j'ai lu récemment que des animateurs de terrains d'aventure avaient inventé un permis de scier et un permis de clouer, j'étais très triste parce que d'un côté c'était bien qu'ils créent des terrains d'aventure, c'était une régression que de dire tous les enfants ne sont pas aptes à avoir des allumettes ou à avoir une scie ou à avoir un marteau. Ça rassurait les parents. C'est la question que vous avez évoquée de celui du risque. Les parents considèrent que tout enfant vit dans un risque permanent, ce qui est évidemment quelque chose d'irrationnel et qu'on ne peut pas expliquer, mais qui existe. C'est que les parents croient ça, dur comme fer, et les convaincre du contraire, c'est très difficile, sauf si on passe par des innovations comme la rue aux enfants, la rue scolaire, les terrains d'aventure d'aujourd'hui, etc., qui démontreront aux parents que tout se passe bien et qu'on peut tomber sans se faire trop mal et qu'on peut descendre d'un toboggan d'un premier étage en rigolant et en étant incroyablement surpris par sa propre audace. Tout d'un coup, là, le gars qui a l'enfant qui est un peu craintif, d'un coup, là, parce qu'il est regardé par les autres. Donc il faut qu'il il est stimulé pour ne pas tourner le dos au danger. Donc il va l'affronter de face et ça va très bien se passer. Et donc, ou va vouloir imiter son frère ou sa grande sœur. Donc tout ça, c'est excessivement important. Les aires de jeu que dénonce Jane Jacobs dans son livre de 1961 à New York sont des aires de jeu par classe d'âge. Et tout d'un coup, le grand frère ou la grande sœur ne peuvent plus accompagner le petit frère ou la petite sœur parce que dans ce truc grillagé, là, c'est jusqu'à 6 ans. Et dans l'autre truc grillagé, l'autre cage, c'est de 7 ans à 9 ans. Voyez. Et ceux qui ont inventé ces découpages idiots, parce que les pédagogues des pédagogies nouvelles sont plutôt favorables aux classes uniques. Hein, des classes où il y a des enfants de 6-7 ans jusqu'à 15 ans. Et les résultats sont excessivement probants. Bon, de la même manière que quand Patrick Guedes crée une école pour ses propres enfants, parce qu'il est mécontent de l'école du village, il recrute quelques enfants d'amis qui n'étaient peut-être pas entièrement convaincus. Il y avait deux disciplines enseignées. Il y avait le jardinage, lui était botaniste, et le piano, parce que sa femme était pianiste. Voilà, donc pendant de 6 ans à l'équivalent du bac, il ne faisait que ces deux disciplines tout le temps, et bien souvent dehors. Et allez voir ailleurs si vous y êtes. Et ils y allaient. Et évidemment, ils croisaient des habitants, on l'a su par leur mémoire, ils croisaient des habitants du village qui leur disaient mais qu'est-ce, alors comme mon père, qu'est-ce que tu vas devenir plus tard ? C'est beau, là, d'aller dans les forêts, de revenir avec plein de feuilles. Toi, je t'ai vu l'autre jour, t'as passé ton temps à plier des cartons pendant des jours et des jours. Et il inventait des nouveaux volumes absolument extraordinaires. Et quand il a eu l'équivalent du bac, le fils aîné de Guedes, toutes les universités d'Édimbourg voulaient l'engager tout de suite. Donc moi, là, ça montre aussi, vous voyez, le rapport entre un diplôme et les connaissances et les compétences de quelqu'un. Ça ne s'inscrit pas. Là, est mort quelque temps, il y a quelques mois, mais on n'en a pas parlé en France, Mike Davis. Vous voyez, celui qui a écrit City of Quartz. Hein, c'est un auteur américain fameux qui a renouvelé, et puis il a écrit aussi la géographie de la peur. Bon, c'est il était livreur à Los Angeles. Livreur. Et étant livreur, il allait partout dans Los Angeles, il connaissait parfaitement Los Angeles. Et donc il a commencé à faire des textes d'activistes, des textes politiques sur Los Angeles. Et puis il y a un directeur de laboratoire d'université qui a dit « Tain, il est fort celui-là. Allez hop, on le nomme prof. » Il nommait prof. Moi, dans l'institut où j'enseignais, je ne donnerai pas de nom, rassurez-vous, les deux collègues qui enseignaient à la banlieue n'y avaient jamais été. Donc, vous voyez, l'ampleur des lieux communs, l'ampleur des stéréotypes était immédiatement reproduite. Et la fois où j'ai fait un cours sur la misère urbaine en venant avec deux SDF, je n'ai pas pu les rémunérer. Je n'ai pas pu les rémunérer. J'ai été voir la comptable à la fac, Paris 12, elle m'a dit « Ben non, c'est pas prévu ». Alors j'ai dit, mais comment ça, c'est pas prévu? On ne peut même pas leur offrir quelques bouteilles de vin. Bon, il n'y avait pas d'humour, donc évidemment, elle m'a dit non. Donc moi, je leur ai donné quelques... Oui, parce que je faisais un cours de philo à la halte de jour d'Emmaüs, rue des Bourdonnais, donc j'avais amené deux de mes élèves, enfin mes élèves, ils étaient plus vieux que moi, deux de mes élèves, SDF, à Créteil, et ils ont fait un cours magnifique. J'ai revu un étudiant l'autre jour dans la rue à Paris, qui m'a dit, vous vous souvenez, il y a 17 ans, vous aviez fait venir deux SDF. Qu'est-ce qu'on avait appris? Ben, j'ai dit, oui, mais vous voyez, c'était clandestin. Ils étaient marginaux dans la ville, ils étaient à nouveau marginaux pour parler de leur marginalité. Vous voyez, c'est ça l'absurdité du système dans lequel on est. C'est pareil qu'on va faire une ville des enfants sans demander aux enfants. Bon, voilà, donc vous avez compris mon cheminement. Donc il y a les enfants. J'ajoute quand même, c'est un point excessivement important, mais c'est le plus difficile au niveau de l'enfance, c'est la distinction petit garçon et petite fille. Lorsqu'on arrive à la puberté, c'est plus simple, j'allais dire. Et puis ensuite, on a des études ou des récits, surtout beaucoup de récits, à commencer par ceux de Simone de Beauvoir, sur son enfance, où on voit bien qu'une approche genrée est absolument indispensable. Pour des nourrissons jusqu'à 5-6 ans, c'est beaucoup plus difficile. On observe des choses, évidemment. Mais les parents les laissent jouer encore ensemble. C'est après, à cause du risque, une petite fille qui devient une petite femme. Alors là, on se dit, elle va se faire importuner, elle va se faire agresser, harceler, etc. dans la rue. On va la garder à la maison. Voilà, c'est quelque chose, évidemment, de terrible. Je reviens quand même à un point sur ce qu'on apprend. J'avais parlé de la sensorialité. C'est un débat de fond en philosophie. Partout dans le monde, c'est que le sensualisme, on l'a oublié. C'est Condillac, je donne ce nom-là, mais aussi les idéologues, Cabanis, Dessus de Tracy, Volney, tous ces gens-là ont complété, ils n'ont pas aboli, ils ont complété le cogito cartésien « je pense, donc je suis » par un « je sens, je ressens, donc je suis ». Et ça, dans notre culture occidentale, c'est mal vu. Si vous dites « je sens ça, j'ai une sorte d'intuition pour ça », bon, ben, revenez nous voir plus tard, là, il nous faut un truc rationnel, fonctionnel, totalement qui semble indiscutable. Or, c'est l'inverse de Platon, où là, tout est questionné. Est-ce que vous avez vu ce film absolument extraordinaire d'Agnès Varda, Cléo de 5 à 7. C'est un film qui dure 2 heures. C'est-à-dire que c'est un film en temps réel. C'est pour ça que c'est magnifique. Et l'héroïne, qui est une chanteuse, qui est jouée par Corinne Marchand, attend des résultats médicaux. Enfin, c'est plutôt triste. Mais enfin, bon, là, c'est avant de savoir. Elle se promène au parc Montsouris avec un permissionnaire qui veut retourner en Algérie, parce que la guerre est là. Et lui, il la dragouille, mais gentiment, vous voyez, c'est pas du tout un harceleur, il fait le malin. Et alors, il commande des tas de choses, il donne le nom des arbres dans le parc, etc. Et alors, l'héroïne lui dit, d'ailleurs, c'est une phrase philosophique, l'héroïne lui dit, c'est incroyable, vous avez réponse à tout. Moi, je suis plutôt du genre question à tout. Ça, ce sont les enfants. Pourquoi ? Pourquoi la pluie ? Pourquoi la neige ? Pourquoi une feuille ? Pourquoi cet oiseau ? Et vous, l'adulte, vous êtes bien souvent embêté. Alors j'ai appris qu'il y avait des... Je n'ai pas de portable, moi, mais il paraît qu'il y a des applications. Vous pouvez prendre en photo une plante ou une feuille, puis vous avez le nom de suite, latin, que vous ne savez pas prononcer, donc vous dites, bah, tu vois, c'est là. Bon, donc l'enfant est rassuré, c'est quelque chose qui figure dans une encyclopédie. Alors, l'école, évidemment, elle est partout. C'est le titre qu'a donné Pascal à juste titre. Et ça me fait penser à un auteur que vous connaissez peut-être qui s'appelle Paul Goodman. Ça vous dit quelque chose dont la gestalt thérapie, non, ça ne vous dit rien. Bon. Paul Goodman est un personnage absolument atypique. C'est un activiste. Voilà, on dit ça. En français, ça n'existe pas, l'équivalent. C'est un activiste. Il enseigne à l'université. Il affiche sa bisexualité. Donc, il est marié, il a deux enfants, mais il a des aventures, mais des vraies aventures amoureuses, pas des passades, comme on dit, dans le théâtre de Courteline, avec des garçons, des étudiants, et sa femme le sait, enfin, elle trouve ça tout à fait normal, j'en sais rien, mais enfin, elle vit avec, sans problème. Et lui, donc, vous voyez, on est en 61, 72 États-Unis, hein, donc c'est quand même très très mal vu. À l'époque, les États-Unis sont homophobes à 300%. Et donc ce Paul Goodman, évidemment, est contre la guerre au Vietnam, manifeste dans la rue, participe à l'invention du sitting, c'est une modalité, on s'assoit, vous savez, pour empêcher. Ça a commencé contre les bulldozers à New York de Robert Moses, le chargé de l'urbanisme de New York, qui voulait faire des autoroutes. Et là, donc, Lewis Mumford, Paul Goodman, etc., plusieurs intellectuels s'assoient par terre devant les bulldozers et puis ils ne bougent plus. Et là, les ouvriers n'osent pas les écraser, malgré les ordres qui étaient foncés. Ils n'ont pas à être là et c'est illégal. Oui. Bon. Et ce Paul Goodman a cette idée incroyable de dire que l'école doit se faire là où on a des choses à apprendre. Par exemple, il voit très bien une classe être dans un café pour apprendre la convivialité, le rapport des adultes entre eux, l'art de servir, goûter les différents breuvages, etc. Le garage, pour savoir réparer son vélo, mais aussi voir comment une voiture fonctionne. La bibliothèque municipale, où on va s'y installer pendant le cours de français. Le musée, où on va y rester toute une journée entière. Vous voyez. Donc l'école n'est plus dans une école en tant que bâtiment scolaire, mais éparpillée comme ça dans des lieux où l'on apprend des choses. En observant un artisan faire de la ferronnerie, un autre préparer des baguettes, etc., etc. Donc, vous voyez, ça, on est aussi en 62, vous voyez. Et Ivan Illich va reprendre cette idée-là. Ils se connaissaient très bien, ils s'estimaient beaucoup, Ivan Illich et Paul Goodman. Et Paul Goodman était aussi très lié à Saul Alinsky, vous voyez. Enfin, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais moi, je suis très intéressé toujours par la géohistoire des idées, c'est-à-dire voir comment les choses circulent, qui les porte, qui les transporte, comment c'est reçu, comment c'est abandonné à un moment donné, etc. Bon. Et donc, Alinsky, c'est, vous voyez, un militant qui va mettre sur pied la lutte des ghettos noirs, alors qu'il est blanc, lui, la lutte des ghettos noirs à Chicago. Les bailleurs, comme on dit en français, n'entretiennent plus les bâtiments, les chiottes débordent, etc. Et donc, lui dit à tous ces familles noires, aux revenus excessivement précaires, souvent des situations familiales très tendues, beaucoup de mères célibataires, avec deux ou trois enfants de deux ou trois pères différents, etc., commerce illicite dans la cité. Mais en même temps, ils n'ont pas pour autant à être punis et à vivre dans des conditions indignes. Donc, il dit, écoutez, vous ne pouvez plus aller aux toilettes. Ben, c'est très simple. Il y a des très belles chiottes à l'aéroport. Alors, il affrète 3-4 quarts. Il emmène 300 noirs du ghetto. Et allez aux toilettes, là, c'est gratuit. Faites ce que vous voulez, prenez une douche. C'est comme chez vous. Alors, évidemment, c'est une confrontation entre deux populations différentes, ceux qui prennent l'avion et puis ceux qui ne l'ont jamais pris. Et donc, là, la police intervient. Donc, la presse en parle, etc. Et il y a des reportages photographiques où on montre les conditions indignes de ces logements. Et donc, les propriétaires de ces logements dits sociaux sont obligés, évidemment, d'entretenir les toilettes et de les remplacer. Oui, donc c'était comme ça son truc. Hein. Je vous donne un exemple, il y en a plein. Donc son truc à lui, comme activiste, c'est de dire il n'y a pas de combat politique sans colère. Et moi, je poursuis ça, je transpose ça dans la pensée. Et je l'ai dit récemment, j'ai dit ça à une soutenance de thèse. J'ai dit à la doctorante, j'ai dit, votre texte est trop sage, vous ne manquez de colère. La colère appartient à la connaissance.
Un grand merci déjà pour cette première séquence. Nourdine, écrivain, activiste, on l'a dit, qui vit à la Paillade et qui a mené dans ce quartier de la Mausson énormément de projets au marché Saint-Paul, dans les cafés, dans l'espace public, avec des lycéens, à Plan-Cabanne, à Gambetta récemment. Tout ça, tu vas nous en parler, donc je ne vais pas être plus long. Moi, je voudrais commencer ce moment d'échange avec toi en évoquant ton roman qui s'appelle « Tour de toi en écharpe » que tu as publié en 2008. Moi, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup plu, et notamment donc un livre préfacé par Agnès Jaoui. Et donc, dans ce livre, je me souviens, alors je ne l'ai pas relu, mais c'est une scène qui m'a marqué profondément, tu évoques la classe. Ton personnage, qui s'appelle Samia, si je me souviens bien, ça je me souviens du prénom, c'est elle, c'est ça, elle est en classe et elle rêve. Elle s'échappe de la classe, c'est ça. Et donc moi je voyais en écoutant Thierry des résonances évidentes avec ce récit, ce roman du Tour de toi en écharpe, et c'est peut-être une question pour amorcer ce temps d'échange avec toi, d'où pars-tu pour faire tout ce travail qui a un lien avec l'espace public, avec l'école dehors, la classe dehors, c'est le nom du projet que tu as mené ces derniers temps. Quel est ton point de départ, en fait ?
Moi, je dirais que tout me ramène à mon quartier et à la vie qu'on y mène. Et plus j'avance et plus je vis des rencontres et plus je comprends que ce quartier m'a marqué, m'a façonné, a induit en moi, chez moi, des aspirations intimes différentes de celles qu'on peut-être avoir dans le centre-ville, des précautions aussi. J'ai vu aussi, et je ressens que je suis habité, investi aussi d'une peur, d'une... J'ai identifié des pièges dans la vie qui ne sont pas tout à fait celles qu'on distingue sur sa route quand on habite un centre-ville. Quand moi, voilà, j'habite ce quartier populaire, je comprends vraiment que, et j'ai longtemps pensé que m'affranchir, m'émanciper, était de vivre dans la vie des impulsions qui n'auraient pas comme point de départ mon quartier. Mais je me suis... J'ai pu un temps m'aménager une vie pour me le faire croire, mais c'est pas vrai. Et puis, comme on dit, plus on fuit le naturel et plus il revient au galop. Et donc, je ne lutte plus contre ça. Et enfin, ça fait un petit moment maintenant. Et donc, oui, je dirais de façon certaine que mon quartier m'a façonné. Et parce que j'y vis encore... ce quartier, sans doute, continue d'entretenir, renforcer des réflexes, autant de rêves, d'espoir, mais aussi ce que moi je distingue comme des écueils dans la vie qui restent les mêmes. Et voilà, je dois bien me ranger à ce constat-là. Et puis, en préparant cette rencontre et ce que je devais raconter sur Cours dehors, tout se ramifiait une fois de plus en prolongeant ma pensée pour aller chercher des raisons que je ne cherchais pas forcément à... Il n'est pas question nulle part et avec personne, sauf ici, et d'en parler et de motiver ces actions-là, mais à bien chercher, on finit par trouver. Et encore une fois, tout me ramène à mon quartier et à la jeunesse que j'y ai vécue, aux gamins que je croise encore. Et voilà. Et il n'est plus question trop de lutter contre ça. Tout témoigne pour ça, quoi. Ouais.
Alors, ton quartier est dehors. Alors, qu'est-ce qui se joue dehors ? Qu'est-ce que tu mets en jeu dehors ?
Alors, j'essaie de chercher des raisons qui ne me regardent pas moi seulement, mais davantage les gamins que j'implique dans ces actions. Mais malgré tout, à partir de sensations et d'émotions qui me restent, il se trouve que j'ai vécu de manière assez douloureuse quand même le rejet. Je sais ce que c'est. Et quand je remonte dans mes souvenirs, j'avais déjà très peur de... Et je trouvais déjà très compliqué, je trouve que je me posais même la question trop jeune, je trouvais très compliqué cette chose de se trouver une place dans la société. Et je me rappelle que ça me terrifiait déjà au collège. Et que ça participait d'une forme de relâchement de mes efforts. Véritablement, hein, ça me... Je comprends toujours pas pourquoi j'ai autant anticipé cette espèce d'horizon sombre là qui était dont on n'a pas besoin de une idée qu'on n'a pas besoin de s'infliger tout jeune, mais il se trouve que moi c'est quelque chose que je redoutais et c'est encore très fort chez moi cette chose là et donc je porte ce regard là sur ces gamins qui vivent en plus un contexte encore plus compliqué que le mien. À savoir le quartier depuis, j'ai maintenant 46 ans et je parle d'une scolarité, je peux bien remonter il y a 40 ans en arrière, et mon quartier était autrement plus métissé. Et par exemple, je me souviens que de mon passage du collège au lycée, j'avais beaucoup de mal à faire la rencontre, à copiner avec tous ces jeunes du même âge qui venaient, eux, des villages et qui avaient des goûts très différents des miens. Et là, j'ai compris à quel point j'étais marqué par mon quartier, par une culture quartier. Et je me souviens que tous ces jeunes hein, dans ma classe, qui étaient un peu gothiques, un peu skater, un peu graffeur, moi, ils me fascinaient. Et c'était aussi une douleur de ne pouvoir que vivre ça, ce spectacle de gamins aussi chargé de culture et de fantaisie, enfin ça me de une légèreté que je connaissais pas et qui n'était pas celle de mes copains on avait plutôt une scolarité très très dure, on se malmenait quand même hein, ado, il y a déjà 30 ans à la paillade et donc, quand je vois que les gamins d'aujourd'hui, ces ados, n'ont pas les mêmes photos de classe que celles que je pouvais avoir, où on était tous très différents, je me dis que, parce qu'on vit dans un quartier où de la maternelle au collège, tu restes au même endroit. Au mieux, si tu n'as pas redoublé, tu quittes le collège à 15 ans, quoi. Et c'est déjà beaucoup trop tard pour faire la rencontre au lycée qui sera en ville ou en tout cas en dehors du quartier. C'est déjà beaucoup trop tard pour en tout cas, ça va être beaucoup plus difficile de cultiver avec une autre jeunesse venue d'ailleurs des affinités, de partager des goûts. Et puis, parce qu'il s'agit de vite occuper une place dans une société qui est l'école. On ira à la facilité et moi déjà je retrouvais plutôt mes copains et quels que soient les quartiers de la ville d'où ils venaient, on se retrouvait ou en classe ou dans la cour de récré à partager nos goûts plutôt communs et je veux pas qu'ils vivent ça en fait voilà pourquoi cours dehors aussi.
Tu veux expliquer peut-être ce que c'est cours dehors?
Oui. Bon, d'abord, oui. Je te remercie de m'aider parce que c'est pas facile pour moi ce soir. Alors, cours dehors, c'est né donc au sortir du confinement. En tout cas, à la paillade, il y a eu à la privation de faire classe en présentiel, il y a eu aussi une fracture numérique qui empêchait aussi et beaucoup trop longtemps des gamins à malgré tout entretenir avec l'école une relation toute pédagogique. Et il y avait aussi cette idée qui grandissait et puis qui dangereuse si elle devait devenir une préoccupation chez des gamins de cet âge dont le désir d'accomplissement est à protéger. À savoir qu'il pouvait légitimement hypothéquer un avenir. Voilà. Quelque chose qui, je le redis, dans un quartier populaire, est déjà, par la force des choses et par une espèce de sentiment, ou c'est peut-être une réalité d'un traitement de défaveur et de chances qui ne seront pas tout à fait les mêmes que pour une autre jeunesse en dehors des quartiers populaires. On a très vite fait de conduire des gamins à l'abandon. Vraiment, c'est d'ailleurs beaucoup, comment on appelle ça, quand on arrête l'école,
l'échec scolaire.
Le décrochage scolaire est très important et dans les quartiers populaires. Et puis, à la Paillade, et je ne sais pas ailleurs, mais en réalité, il y a une école dehors, il y a une école de la rue. Et elle opère et elle est à concurrencer. Il faut aller, pas seulement pour se montrer original, aller sur l'espace public. Il faut l'investir dans un quartier comme la Paillade et même ailleurs pour contrer ces autres options de vie qui sont faites au quotidien à des gamins dans les quartiers qui, je le redis, s'ils devaient ne plus croire en leurs chances d'accomplissement par l'école, pourraient assez vite céder à des facilités qui sont là et qui se proposent à eux chaque jour, à chaque sortie d'école, quand ils traversent un centre commercial ou chaque soir en bas de leur immeuble. C'est une chose qu'il faut pas sous-estimer. Et il s'agit vis-à-vis de ces mômes de se montrer très vigilant. Et moi, j'ai vécu en tout cas la crise sanitaire comme une alerte qui était vraiment à prendre au sérieux. Et avec le risque que l'on court de très difficilement les récupérer, ces gamins-là. J'ai assisté à ça de près en faisant le tour des associations pendant la crise sanitaire. Et cette chose-là avait cours, hein, vraiment. Des gamins décrochés, véritablement.
Alors, qu'est-ce que cours dehors ?
Alors, cours dehors, l'idée, c'est donc de donner rendez-vous à un groupe d'élèves, à un endroit dans la rue, un point de départ, et les amener sur un parcours dans la ville ou qui traverse le quartier, parcours sur lequel les attendent des intervenants, 5, faisant écho au thème du jour. Par exemple, le parcours qui avait pour thème l'écologie a conduit des élèves à rencontrer, ça se fait au coin de la rue, hein. L'idée, et c'est ce qui fait peut-être tout l'insolite de ces rencontres-là, c'est qu'elles ont lieu à des endroits volontairement recherchés comme pour ce qu'ils ont de plus banal. Et donc donner rendez-vous à un apiculteur en bas d'une tour, à un autre, c'était une autrice qui écrit beaucoup sur l'écologie sur un banc public. Puis on a fini sur un jardin pédagogique dans le quartier de la Paillade. Et à chaque fois, la rencontre doit durer bien une heure et demie, peut-être parfois deux heures, au coin de la rue. Donc, un échange entre les élèves et l'invité s'engage. Et après un petit exposé de son travail ou de son action par l'invité, et puis des questions-réponses, voilà. Et on en est à peu près maintenant peut-être à une trentaine ou une quarantaine de rencontres qui sont vraiment déclinables à l'infini, et quelquefois les élèves passent de public à être, eux, le centre des attentions. Par exemple, il y a ce cours dehors spécial oral du bac où un tout public est invité à venir écouter 5 élèves, eux, répartis sur un chemin qui attendent un public pour, par exemple, quand c'est le spécial grand oral du bac, pour faire entendre cet examen qu'ils auront à présenter le jour du grand oral. Il y a aussi ces rencontres spéciales bac de français, où un public toujours s'engage sur un chemin, des élèves répartis sur ce chemin, et chacun parlera d'un livre, toujours dans les conditions qui sont celles d'un oral. Le même temps, et à ce moment-là, c'est le public qui devient jury, et dès que l'élève a fini de raconter son livre ou d'exposer son sujet du grand oral du bac, ce sont les gens qui sont là, qui le questionnent sur ce qu'il vient de présenter. Et c'est assez... c'est assez fabuleux ce qui peut se passer. Alors moi, le bien fondé de cette action est simple. C'est vrai que tu dis que je suis un activiste et on n'a pas besoin de tant de tant de raisons que ça, et puis j'ai pas m'en inventé pour continuer cette action-là. Le bien fondé est évident, sortir des gamins et les conduire à vivre des expériences dont je me dis que sur l'espace public elles seront susceptibles et de nature à les marquer plus durablement. J'ai vraiment la sensation, en tout cas moi, si je me souviens pas tous mes cours en classe, je crois n'avoir oublié aucune sortie scolaire.
Ouais. C'est, je crois qu'on est nombreux à être dans ce cas de figure. Hein. Enfin, c'est pareil. Les 4 années de collège, je n'ai que 2 souvenirs qui sont effectivement des sorties. Une rencontre avec un écrivain et une sortie. Voilà.
Ah, mais moi, je me souviens que de
qui
ça.
Qui partage ce constat? On est tous d'accord, non? Mathieu a plus de souvenirs que ça. Non.
En tout cas, je me dis qu'il y a sans doute une disposition de l'esprit là, à cet endroit-là, quand on conduit quelqu'un, en l'occurrence des gamins, sur l'espace public, qui est donc de nature à les amener à appréhender autrement l'information, qui, à mon sens, deviendra davantage qu'un cours, une expérience de vie.
C'est vraiment le mot-clé qui fait écho à tout ce qu'a dit Thierry, hein, je crois, la notion d'expérience, une pédagogie par l'expérience, un apprentissage par l'expérience, c'est-à-dire quelque chose qui est inattendu. Et c'est ça le principe même de l'expérience, c'est qu'on ne sait pas ce qui va advenir, et c'est ça qui nous excite, c'est ça qui nous maintient en curiosité, vivant, c'est ce qui fait le sel de l'expérience, et c'est ce qui donne la dimension d'aventure qu'on a dans le titre de la rencontre de ce soir, c'est que tout peut arriver. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que l'école, c'est un lieu d'abstraction, c'est-à-dire qu'on est abstrait du monde, dans un espace orthogonal, réglé, normé, où tout est à sa place, les savoirs sont à leur place, dans des disciplines, les concepts sont usinés, tout est très travaillé, et justement, l'abstraction, c'est aussi le nom qu'on donne au concept, à une façon de construire le savoir, et quand on est dehors, tout tombe. Parce que le réel est imprévu, imprévisible, chaotique, incertain, inattendu. Voilà, on croise des gens qu'on n'attendait pas ou on ne les croise pas, etc. Et c'est une autre façon, comme tu l'as dit quand tu as parlé du sensualisme, de construire le savoir par l'expérience singulière que l'on fait dans des espaces singuliers. C'est-à-dire qu'on part d'une situation, hein, c'est une approche situationniste finalement, et expérientielle, et c'est après qu'on va vers le concept, vers la généralité, on fera des trajets, des allers-retours, mais on commence par l'expérience singulière. Et c'est ça la force probablement de cette expérience de l'inattendu, qui est toujours l'expérience de l'espace public.
Mais j'ai compris dans la pratique aussi que ce qui était le plus opérant, pour leur faire vivre cet extraordinaire, c'était de ne pas trop renoncer à une ambition pédagogique. Autrement, c'est en tout cas à la paillade, pour des gamins qui y vivent, c'est un jour comme un autre à faire ou l'école buissonnière, ou à être enfin, ceux qui sont en vacances dans ce quartier. Il s'agit de trouver cette juste mesure où malgré tout, une forme de solennité, d'attention, celle du prof, soit maintenue de manière à ce qu'il soit conduit dans un troisième univers, qui est celui qui ne renonce pas donc à lui, parce qu'il s'agit de ça, hein, il s'agit quand même d'un savoir, quel qu'il soit, dont on lui fait la proposition, et il aurait très vite fait de et puis ce serait même très facile de lui faire oublier tout ça en le ramenant à des conditions qu'il connaît que trop bien dans la rue, en tout cas dans la paillade, qui est une grande cour de récréation, à une situation qu'il connaît que trop bien, qui le démobiliserait et puis lui ferait rater toute l'étrangeté de la chose, qui fait partie de la... Il y a une alchimie, il y a quelque chose, il y a un curseur à régler, et puis après, et puis après le reste, comme tu dis, c'est tout ce qu'on ne peut pas préméditer et que j'ai pu observer. Alors, à la paillade, conduire des ados sur un parcours dans la ville, et il y a ce moment où... Et ça, j'y tiens, au micro, j'y tiens parce que ce quartier, ces rues manquent, je trouve, cruellement de et commencent à manquer de spectacles et de précédents heureux. Les coups d'éclat sont toujours plus tristes et je voulais Et je voulais que cette démarche soit quelque chose qui intrigue aussi le passant et qu'il s'arrête et qu'il devienne aussi un peu élève en s'approchant de ce qui va être dit. Et là, il se passe tout un tas de trucs qui est de l'ordre de la résolution, je trouve. À savoir que ces adultes qui s'arrêtent et qui ne voudraient pas le plaisir de ce spectacle, vraiment, on est dans ce quartier très preneur de ces choses-là qui ne sont pas snobées. Les gens ne passeraient pas indifféremment dans ce quartier à côté d'un groupe d'élèves dont l'un est au micro et raconte des choses. Donc assez naturellement, les gens s'approchent et écoutent. Et ce qui peut se résoudre là, quand même, c'est quelque chose de l'ordre de... C'est ces gamins dont on ne soupçonne pas, et parfois même dans la famille, à quel point ils sont habités d'émotions, de pensées profondes et d'un regard subtil sur la vie. J'aime l'idée que cette chose-là soit non seulement exprimée sur l'espace public, mais qu'en plus elle soit... par un micro proposé à tous. Il y a aussi ces jeunesses qui se croisent, celles dont on parlait, les décrocheurs. Et pour tout vous dire, je repère ces endroits-là où ils s'attardent pour volontairement, et c'est pas pour les toiser, volontairement conduire des ados tout près. Et là, il se passe un jeu de regard qui est très intéressant entre des gamins qui... Et pas que les autres s'offrent en spectacle de contre-exemple de ce qui leur arrive, ce qui risque de leur pendre au nez s'ils devaient échouer à l'école. Non, c'est à ce moment-là, c'est davantage pour que ces gamins qui font le mur, comme on dit, se redonnent une chance de reconsidérer un petit peu leur parcours. Il s'agit davantage d'eux, sans les brutaliser par ce qui se passe, mais leur donner l'occasion de repenser en regardant des gamins dans la plus belle application, parce qu'ils sont conduits à ces moments-là, quand c'est eux qui s'expriment, à venir préparer et, par un texte ou la présentation d'un livre. Et que ces gamins qui n'ont parfois que 2-3 ans de plus entendent ces ados... faire la proposition de pensées qui ne les occupent pas, de considération des choses qui ne sont pas les leurs. Je trouve ça très intéressant de faire que ces mondes-là se frôlent, parfois même se percutent. Toutes ces rencontres qu'on a vécues, rythmées par le bruit des motos qui passaient, tout ça avait un caractère très étrange. Et c'est toutes ces choses qu'on ne prémédite pas, cette épreuve de la vie qui vient terminer le sens à donner aux choses. Et voilà pourquoi je ne pense pas plus que ça ce que je fais. C'est abandonner aussitôt, imaginer sur un fondement simple, un bien fondé simple. Moi-même, j'apprends de ce qui se passe. À la mesure où on ne doute pas de la pertinence de conduire des gamins dehors. J'aurais pu m'arrêter à une seule raison, celle que j'ai dite au début de le faire. On est dans l'observation, puis voilà.
C'était l'enregistrement intégral de la 4e rencontre intitulée « Demain la ville et l'école, terrain d'aventure » dans le cadre de « Demain l'espace public », cycle de rencontres proposé à Montpellier par la Maison de l'architecture Occitanie-Méditerranée, la ZAT, zone artistique temporaire, et Transat, programme d'urbanisme culturel. Nous vous suggérons d'écouter les deux entretiens consacrés l'un à Thierry Paco, philosophe de l'urbain, auteur notamment de « Pays de l'enfance ». L'autre, à Nourdine Barra, écrivain, venu présenter ses actions mises en œuvre dans les espaces publics du quartier de la Mosson. Ce programme est financé dans le cadre de Montpellier Capitale Européenne de la Culture,